c'est la plus grosse part du budget de l'Europe. La politique agricole commune, 400 milliards d'euros distribués ces 7 dernières années. Combien y aura-t-il pour les 7 prochaines? Les pays membres sont en pleine négociation. Ils sont pour l'instant loin d'être d'accord sur la taille du gâteau et la manière de le découper. Et voilà un sujet qui anime les discussions dans les allées du Salon de l'Agriculture de Paris. Bonjour Aurélie Catalo.
Bonjour.
Vous êtes la coordinatrice de la plateforme pour une autre PAC. C'est un collectif de 41 organisations françaises qui travaillent à la réforme de la PAC. Qu'est-ce qui ne va pas avec celle qui s'achève à la fin de l'année avec cette PAC actuelle ?
Alors, dans la PAC actuellement, un des principaux soucis, c'est qu'on pense la production agricole sans penser l'alimentation de nos citoyens européens. Donc, on subventionne certains types de production plutôt à visée d'exportation, au lieu de se concentrer sur fournir une alimentation telle que les citoyens européens le demandent, donc une alimentation saine, de qualité, la plus locale possible.
La France est le principal bénéficiaire, on est d'accord, hein, de cette PAC. Elle reçoit chaque année plus de 9 milliards. Qui en profite ? Quel type d'agriculteur en profite ? Tout le monde en a au moins une petite part ?
Non, malheureusement, il y a un certain nombre de productions agricoles qui ne touchent quasiment pas d'aide de la PAC parce que les aides de la PAC sont allouées à la surface, donc plus une ferme est grosse, plus elle a d'aide. Or, il y a des types de productions qui se font plutôt sur des petites surfaces, et je pense notamment à l'arboriculture, au maraîchage ou a fortiori à l'apiculture.
Dans les négociations actuelles, hein, certains voudraient, notamment la Commission européenne, voudraient réduire la part du gâteau, hein, le budget. Est-ce qu'une baisse du budget aurait de lourdes conséquences pour les agriculteurs français ?
Indéniablement, si on baisse drastiquement le budget de la PAC, ça va avoir des conséquences. Par contre, au-delà de savoir si on baisse de 4 ou 5% le budget de la PAC, pour ce qui nous importe nous, c'est plutôt de savoir à quel type d'aide on alloue ces aides.
Donc,
plutôt la répartition, le ciblage que l'enveloppe globale.
Alors l'enveloppe globale, elle dépend aussi d'un paramètre qu'il a fallu prendre en compte, le Brexit, puisque le Royaume-Uni versait plus d'argent qu'il n'en recevait. Qui va compenser ? Qui va prendre en charge la différence ?
C'est la grande question. Est-ce que c'est à la PAC notamment de servir de variable d'ajustement dans le budget européen. A priori, les négociations en cours sont plutôt parties pour dire que finalement la PAC ne va pas trop payer le prix du Brexit, quand bien même on s'attend quand même à des coupes sur certaines parties du budget. Et c'est là où en fait est le problème principal, c'est que on compte faire porter le chapeau à la partie du budget de la PAC qui est, à notre sens, la plus pertinente.
Laquelle ?
Alors, en fait, dans la PAC, quand on parle de négocier le budget européen de la PAC, on parle de négocier deux fonds européens différents qui correspondent chacun à des objectifs différents et à des logiques d'intervention différentes. C'est ce qu'on appelle les fameux deux piliers de la PAC. Et dans ce deuxième pilier de la PAC, on a des aides ciblées, des aides plutôt au développement rural ou à l'accompagnement du changement de pratique des agriculteurs. Et malheureusement, dans les négociations, on compte davantage réduire ce deuxième pilier.
Y compris du côté français, on a le même avis ?
Tout à fait. En France, on fait partie des États membres pour lesquels la répartition de budget entre les aides directes aux revenus des agriculteurs, c'est-à-dire le premier pilier et le deuxième pilier, est la plus au détriment du deuxième pilier.
Est-ce que le Brexit peut quand même être vu comme une chance, justement, l'opportunité de remettre tout à plat et de réorienter le modèle agricole ?
Alors, on pourrait voir le Brexit, mais aussi le fait que la Commission européenne ait proposé un Green Deal comme des opportunités pour tout remettre à plat. En effet, malheureusement, ce que les négociateurs, tant au niveau des chefs d'État de l'Union européenne, mais aussi de la Commission européenne, préconisent, c'est davantage d'avancer avec le texte qui est déjà sur la table pour la réforme de la PAC et qui, lui, ne va pas du tout dans le sens d'une remise à plat.
Pour vous, il faudrait utiliser quels critères pour définir qui a droit à combien d'aides ? Vous le disiez, actuellement, en France, c'est la taille des exploitations.
Oui.
Alors, faudrait quoi, vous,
c'est valable même
vous
à échelle européenne. Une des idées qui est souvent évoquée, c'est le fait que les aides pourraient être réparties selon l'actif agricole, c'est-à-dire selon l'emploi qu'il y a sur une ferme. Donc au lieu de se dire que plus une ferme a d'hectares, plus elle a d'aide, on pourrait se dire que plus une ferme a une masse salariale importante, plus elle a d'aide. Ceci étant dit, c'est contraint par les négociations sur la répartition du budget de la PAC. Aujourd'hui, on regarde combien on donne à chaque État membre selon le nombre d'hectares qu'ils ont et non selon le nombre de salariés. Ensuite, on pourrait aussi se dire qu'on alloue le budget de la PAC selon des objectifs politiques et pas uniquement pour se répartir un gâteau comme vous le disiez. On pourrait se dire qu'on regarde la valeur ajoutée qui est produite par ferme. On pourrait se dire qu'on regarde quel type d'agriculture fournit davantage des services.
En gros, plus d'argent pour l'agriculture bio et moins pour l'agriculture industrielle.
Mais pas que l'agriculture biologique, bien sûr l'agriculture biologique, mais il y a aussi d'autres données qui sont à prendre en considération. Est-ce qu'une ferme est respectueuse du bien-être animal ? Est-ce qu'une ferme répond à la souveraineté alimentaire de son territoire ? Est-ce qu'une ferme contribue à exporter des denrées à l'extérieur ou au contraire à répondre répondre à la demande alimentaire intérieure de l'Union européenne. Ça, ce sont des facteurs qui seraient, à notre sens, plus intelligents à prendre en compte.
Mais ça va être un casse-tête monstrueux s'il faut prendre tous ces paramètres en compte pour calculer les montants.
Là, on parle plutôt d'objectifs à louer à la politique. Ensuite, pour la répartition du budget, un des critères serait plutôt effectivement l'actif agricole, ce qui pose problème à la France, puisque la France a moins d'actifs agricoles proportionnellement à d'autres pays, comme par exemple la Roumanie, alors qu'elle a la plus grande superficie des terres arables.
Vous citiez la Roumanie. Comment ça se positionne en Europe? Il y a la France d'un côté, donc qui a envie quand même qu'on continue à avoir un gros budget de la PAC. Est-ce qu'elle a des soutiens? Qui y a dans le camp d'en face? Comment ça se découpe?
Globalement, sur les 27 États membres, il y en a 20 qui sont favorables à un maintien du budget de la PAC au niveau actuel. Donc la France, sur le papier, a des alliés. Par contre, au sein de ces 20 États membres, tous ne sont pas d'accord pour savoir si c'est plutôt le budget du premier pilier, c'est-à-dire donc les aides aux revenus des agriculteurs, ou le budget pour le développement rural qu'il faut plutôt maintenir. En fait, sur le papier, la France, elle préconise de maintenir l'ensemble de l'enveloppe. Mais on sait qu'en réalité, c'est plutôt le budget des aides directes aux revenus des agriculteurs qu'elle va sauver, alors qu'il y a d'autres États membres qui, eux, veulent plutôt sauver le budget du développement rural.
Une dernière question à propos de votre plateforme. Pour une autre PAC, à quel niveau vous intervenez-vous dans cette réforme?
Pour une autre PAC fait partie des parties prenantes officiellement consultées par le gouvernement français. Nous avons notamment contribué à la préparation de la mise en œuvre de la PAC post-2020 en France. Maintenant, nous savons que nous ne sommes pas la partie prenante la plus écoutée à ce jour, et c'est malheureux, évidemment.
Merci Aurélie Catalot, coordinatrice de la plateforme Pour une autre PAC. Vous étiez l'invitée du 5-7.
Merci.